Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les éditions Hachette Roman et plus particulièrement avec Girl Power, traduit de la version originale d'Alana Wolf, une autrice australienne. Ce livre est une excellente idée cadeau pour les jeunes femmes de ton entourage, je dis ça car c'est bientôt Noël, clin d'œil, clin d'œil. Mademoiselle est partenaire de la sortie de Girl Power et Mimi avait fait une chouette vidéo sur le sujet. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations et bien sûr les liens du livre et de la vidéo.
J'adore. C'est trop marrant, tu. J'adore.
Je suis pas du tout stressée, je vois pas de quoi tu parles. J'adore cet exercice. Parler dans un micro.
Non mais c'est, mais j'imagine que c'est stressant, tu imagines. C'est un stress de ouf.
Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine une autrice, compositrice et interprète de 24 ans. Mon invitée est une voix rebelle. Attention, musique.
Je ride dans la ville. J'ai perdu mon point de repère. Je ride dans la ville. Mon écho me parle dans le rétro. Perturbé depuis le berceau. Je tourne en rond dans le plein.
Iseult a séché les cours pour se présenter au casting de la nouvelle star. Quel terrible exemple d'insolence et d'effronterie. Bref, une candidate de choix pour ce podcast. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou. Tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et tout de suite, j'accueille Iseult. Salut.
Salut à tous.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée dans ce podcast.
Merci à toi, surtout.
Je te le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, mais je suis tombée amoureuse de ta voix.
Merci.
Magnifique. J'invite tout le monde, tous les gens qui écoutent ce podcast, à aller également écouter la session acoustique que tu as tournée avec Louise. Donc je disais, tu as 24 ans. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à chanter ?
J'ai commencé à chanter, j'avais vraiment commencé à chanter à l'âge de 16 ans. Vraiment, c'est là où j'ai commencé à gagner mes premiers cachets, où j'ai vraiment commencé à faire mes premières armes sur scène en tant que choriste pour des artistes de chez mes majeures compagnies. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes armes petit à petit.
On va y revenir car je triche à mon propre podcast. La première question, normalement, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ?
Quand j'avais 7 ans, j'étais très têtue. J'étais très têtue, teigneuse. Ma mère m'appelle ma teigne indélébile. J'étais très lucide sur ce qui se passait autour de moi. J'étais très clairvoyante déjà, vraiment, sincèrement. Genre, j'avais vraiment une sorte de, je sais pas, de clairvoyance permanente.
Comment ça se traduisait par exemple ?
Bah, je sais pas, ma mère, elle me disait que, je sais pas, bizarrement, je sais pas, j'avais une sorte de sens tout le temps pour appréhender des trucs qui allaient m'arriver, ou vraiment, même étant jeune, tu vois, genre c'était vraiment, genre, je sais pas, une sorte de sens que j'avais comme ça. Et j'étais très éveillée, très très éveillée sur tout ce qui m'entourait. Je suis encore sensible aux gens, aux énergies des gens, mais ouais, j'étais très têtue surtout.
Et t'as des frères et sœurs?
J'ai un grand frère qui s'appelle Mathieu. Enfin, qui s'appelle Mathieu Dev. J'ai un autre grand frère qui s'appelle Mathieu aussi. Voilà. Et j'ai deux demi-sœurs et des demi-frères.
T'as grandi avec eux ?
J'ai pas grandi avec eux. J'ai pas du tout grandi avec eux. En fait, les demi-frères et les demi-sœurs, c'est du côté de mon père. Et du coup, on a commencé à se connaître très très tard. J'avais peut-être, sans dire des conneries, genre peut-être 12, 13, 14 ans, je pense. Et on s'est connus à cette période-là jusqu'à aujourd'hui, donc très récent.
Du coup, t'étais plutôt fille unique en grandissant quand t'étais petite ?
Bah non, j'avais mon grand-grand frère. Enfin, il y a moi et mon grand frère. Et du coup, on a toujours été très liés. Mais c'est juste qu'en fait, on a connu très tard que du coup, on avait des demi-frères des demi-sœurs. Et c'était pour moi genre très difficile à comprendre et à admettre que mon père a eu plusieurs vies, en fait, tout simplement. Enfin, un être humain, quoi.
Et comment, quel genre de petite fille t'étais à l'école ? Aussi teigne, comme tu dis ?
À l'école, j'étais... je crois que j'étais pas heureuse. Genre, que j'ai même des fois des flashs de la maternelle, de la primaire, du collège, du lycée. J'ai jamais été heureuse, en fait. J'ai toujours été dans une sorte de tristesse permanente parce que, je sais pas, j'avais pas d'amis et que c'était pas... et que comme j'étais très éveillée là-dessus, du coup, je ressentais beaucoup, beaucoup de choses. En fait, j'étais une sorte de boule d'énergie permanente et très têtue. Et du coup, je me créais mon monde... de la maternelle jusqu'à mon BTS immobilier, quoi. C'était un peu bizarre. J'avais l'impression d'aller à l'école pour aller à l'école et d'avoir mes diplômes, quoi, en fait. Mais j'ai jamais eu un groupe d'amis ou d'attache avec des gens. J'ai jamais eu ça.
Alors, comment tu faisais tes choix d'orientation? Parce que tu viens de dire que t'as fait donc un BTS immobilier. Après m'avoir dit il y a une minute que t'étais très sensible, j'ai du mal à voir la connexion.
Bah, en fait, surtout que la connexion, enfin, elle est un peu bizarre parce que j'ai fait donc du coup la maternelle, la primaire, le collège. Après, j'ai fait un bac pro audiovisuel et multimédia en 3 ans. Et après, dès que j'ai eu mon bac pro audiovisuel, j'ai fait un BTS immobilier. Je sais pas, j'ai voulu changer de filière d'un coup. Et en fait, je me suis arrêtée à la première année. Et après, là, j'ai fait Nouvelle Star. Mais en fait, faut pas essayer de chercher dans ma scolarité, parce qu'en fait, il n'y a même pas de lien entre l'audiovisuel et l'immobilier, en fait. Il n'y a aucun lien, mais aucun. Peut-être j'aurais fait genre l'audiovisuel et Nouvelle Star, oui, mais là, l'audiovisuel et l'immobilier, je sais pas. Je voulais peut-être faire plaisir à mes parents, en fait, au final. C'était pour ça, en fait. Je pense que c'était surtout pour faire plaisir à mes parents, être en mode regardez, j'ai eu mon bac, regardez, j'ai eu mon BTS immobilier, et puis après, j'ai peut-être dû faire un peu de musique. Je pense que j'avais peur.
Est-ce que c'était, quand tu dis faire plaisir à tes parents, c'est-à-dire choisir une voie qui permet de trouver ce qu'on appelle un vrai métier? Faire quoi?
C'est clair, bah, franchement, je pense que t'as raison. Et j'avais aussi, je pense que j'avais très peur. En fait, des fois, là, aujourd'hui, je me remets en question et j'essaie de me poser comme question et de répondre à ma question. Est-ce que j'avais peur de mes parents ou est-ce que j'avais peur de me lancer, en fait? Et aujourd'hui, je sais toujours pas. Même si là, j'ai fait un choix qui est clair parce que je ne travaille pas à côté. Donc, je fais ça H24. Mais je me demande, c'est quoi qui m'a retenu? Pourquoi j'ai pas fait la Nouvelle Star tout en faisant mon bac, même avant mon bac, en fait? Mais j'arrive pas à répondre. Je sais pas si j'avais peur de mes parents, genre peur de leur réaction, enfin de ce qu'ils allaient penser de moi, etc., par rapport à la famille, etc., ou si j'avais, je sais pas.
Ou si c'est une très bonne excuse pour pas affronter ta propre peur d'échouer.
Franchement, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que j'avais peur aussi de l'échec. Ouais, de l'échec et de devoir revenir à une vie normale et revenir dans les bras de mes parents, en fait. Tout en ayant ce truc d'échec dans ma tête, en me disant que, bon bah merde, alors en fait, je reviens avec mes parents et ouais, ils avaient raison.
Parce que c'est ça. Une partie de la réussite, c'est pour toi, c'est de réussir à être indépendante, de revenir chez tes parents. Ça aurait été de fait un échec.
Franchement, je pense que c'est ça. Genre là, par exemple, ça va faire depuis 2014 que je suis réellement dans ce métier et je suis seulement genre indépendante financièrement cette année, par exemple. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait la Nouvelle Star, j'ai signé un contrat chez Polydor, etc. C'est passé ce qui s'est passé. J'ai sorti mon album. J'ai eu la promo de mon album. Mais au final, il y a que cette année, genre il y a à peine 6 mois, que financièrement, je m'en sors. Après tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai pu faire, etc., il n'y a que 6 mois, bah, pour la première fois de ma vie, je suis partie de chez mon père. Et que je paye un loyer.
En étant artiste.
En étant artiste. À plein temps. Et les gens, ils vont certainement écouter le podcast, ils vont se dire, mais comment ça se fait, la meuf, elle a signé un contrat, elle a fait Ruki, elle a fait Stavo, elle a fait plein de trucs, elle a fait des concerts, elle a fait des trucs. Mais en fait, je dirais pas que tout ça, c'est du bluff. Mais je dirais surtout qu'en fait, je fais un métier compliqué psychologiquement et financièrement parlant. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'à mon avis, il y a plein d'âges.
Je pense que personne ne pense que c'est simple d'écrire et de vivre, d'écrire et de jouer de la musique.
Bah franchement, j'ai des potes et même ma nièce avec laquelle je suis très très proche. Pour elle, pour faire de la musique, genre c'est, enfin les gens qui font de la musique, c'est trop simple, tu vois, genre c'est, tu gagnes de l'argent comme ça, tu fais des sons comme ça, tu fais des collabs comme ça, genre, alors que pas du tout, genre j'ai mis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ça fait 5 ans pour être stable financièrement, 5 ans.
Et en même temps, pour te offrir une autre perspective peut-être sur ce point-là, mais être à 24 ans autonome financièrement sur un métier qui te plaît et qui t'épanouit, c'est une prouesse.
C'est une prouesse.
C'est génial.
Énorme,
c'est de la moyenne, je pense, en termes de. Bah, les diplômés français, ils doivent sortir à 25 ans. Il y a 2 ans de chômage à la sortie, je crois.
C'est vrai. C'est juste que je suis extrêmement lucide et je suis très terre à terre par rapport au métier que je fais et que j'en ai chié et que ça a été la merde de ouf tout en faisant un Ruquier. Enfin, c'est juste, il y a une sorte de paradoxe dans ce métier qui m'a abîmé, qui m'a perdu, et que j'essaie de comprendre aujourd'hui. Je sais pas, je trouve que après c'est un peu peut-être mal vu de ma part de pas dénigrer le métier que je fais, mais d'être dans une place où je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire vas-y, moi je suis là, genre je travaille à Monoprix, la meuf elle parle de quoi, genre oui, non mais je sais très bien ce que c'est de plier des jeans, puisqu'il y a à peine 2 ans je pliais aussi des jeans, alors que j'étais en même temps aussi, j'avais aussi un pied et dans le mannequinat et un pied dans la musique et un pied dans mon, enfin c'est juste tout ça, c'est juste qu'il y a une sorte de paradoxe. Des fois je me dis, faire un métier qui nous passionne, c'est cool, mais à quel prix? En fait, ce métier je le kiffe de ouf, mais je veux juste garder ma lucidité et par rapport à ce truc-là et prendre du recul. Juste prendre du recul. Tout ce paysage-là.
Je ne pense pas que c'est dénigrer quoi que ce soit que d'être lucide sur les difficultés liées à un métier. Hein. Tout
mais
ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que c'est l'envers du décor et sans être... je ne t'entends pas te plaindre de cette situation. Je t'entends expliquer que si je m'imaginais que faire de la musique, c'était réussir un casting et ensuite j'avais réussi, tu vois, j'avais atteint quelque chose et puis derrière, ma vie était toute tracée. J'allais au devant de sérieuses déconvenues. C'est ça que j'entends dans ce que t'es en train de me dire.
Ce que tu me dis, ça fait du bien de l'entendre. Genre qu'en gros, on dirait pas que je me plains ou que je dénigre le truc parce que c'est pas du tout mon intention. Mais c'est juste que j'essaie autour de moi d'informer les gens. Il y a des gens, ils sont pas éveillés et qui se disent ok, c'est bon, je vais faire la nouvelle star, je vais faire un casting, c'est bon, vas-y, je pète le truc et tout. Moi, c'est ce que je pensais. Parce que justement, je n'étais pas informée en fait. J'étais pas informée par rapport à ça, tu vois. Moi, en tant que Iseute artiste, mon rôle, c'est certes de dire aux gens allez-y. Faites-vous confiance, suivez votre instinct, ok, c'est cool, faites votre passion, etc. Mais à quel prix?
Mais est-ce que tu regrettes?
Franchement, ça m'a abîmé psychologiquement, physiquement, et ça m'a écarté de ma vie en tant que jeune fille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas eu le temps de me construire en tant que jeune fille. Je n'ai pas eu le temps, en fait. De mes 18 jusqu'à mes 24 ans. C'est seulement là, depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines, que je vis ma vie de jeune fille, en fait. Je vis ce que j'ai loupé pendant plus de 3 ans, 4 ans, en fait.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux me raconter un peu
plus? Avoir des copains, par exemple. Genre, mon dernier copain, c'était quand j'étais au lycée. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'après, tu t'es mis
Et après, je me suis mis genre à fond, genre nouvelle star. Moi, je veux être machin. Je veux faire de la musique. Et fin de l'histoire. Moi, je suis Lyon. Donc, je suis hyper passionnée de ouf, tu vois. Donc, c'est genre, on est têtu. Quand on a un truc, tu vois, on est hyper carriériste. Genre, en mode, on va se dire, demain, je vais devenir auteur de livres, de je ne sais pas quoi. Alors, du coup, je vais mettre à fond et être hermétique à tout ce qui se passe. Quitte à zapper sa famille, zapper une vie sociale, zapper tout ça. Jusqu'au jour où je triomphe et que j'excelle et que j'ai le... Tu vois ce que je veux dire?
Tout rien.
Voilà. En gros, c'est ça. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Et bah, du coup, bah, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, bah, j'ai mis les amis, la famille, la vie sociale, tout ça là. Tous ces trucs, tous ces délires. Même les... J'ai jamais eu de plan HUC. Donc voilà, s'il y a des lectrices qui se disent... Enfin, tu vois, des auditrices qui se disent « Ouais, bon, certainement, non, je n'en ai jamais eu, c'est pas dans vos délires. Bon, je respecte les gens qui en ont, tu vois. »
Mais je suis pareil, vraiment, meuf, ça fait 4 ans, ma vie, c'est mon travail.
On a créé une sororité, genre en mode sororité, genre célibataire à vide, c'est genre en mode... Non, mais c'est, je sais pas, j'ai mis tout ça sur le côté. Et c'est seulement, genre, hier que je me suis rendu compte qu'il y a que maintenant, que financièrement, grâce à ma musique... Grâce à mon projet que je sortir et grâce au projet que je fais pour d'autres artistes et grâce aux campagnes que je fais en tant que mannequin, etc., etc. Il y a que cette année là, depuis 2-3 mois, où vraiment financièrement et psychologiquement tout est au vert. Mais c'était dur, hein.
Mais c'est normal que ça t'arrive maintenant, du coup, cette réalisation, parce que si du coup je comprends bien ton fonctionnement. Je pense que je me retrouve un peu dedans. Mmh. Ça veut dire que pendant tout ce temps, t'étais focus sur l'objectif.
Ouais.
Et que c'est quand t'arrives à... C'est un peu le syndrome de la bicyclette, tu sais. C'est quand je m'arrête, je tombe.
Exact. Et
ça y est, t'es arrivé à un palier qui est « je paye mon loyer ».
Exact.
Je vis ma passion. Hop, jalon posé.
Grave.
Et il y a un côté, maintenant, on revient plus en arrière. Quoi. Maintenant, c'est là.
Exact.
Et peut-être que du coup, la pression retombe et tu te regardes derrière et tu fais... C'est dur sinon.
Non mais c'est vrai, hein. Genre là la pression elle redescend, tu sais, genre en mode, en fait en gros t'as grave raison, genre en mode c'est vraiment comme une sorte de palier. Maintenant genre ma pression c'est garder ou alors genre level up, tout ce que je veux dire. C'est juste ça ma pression, mais elle est beaucoup moins forte que quand j'étais dans la merde, tu vois. Je me suis étalée là.
Je pense que c'était important de mettre en perspective la réalité de ce métier-là. Mm-hmm. Parce que justement, pour beaucoup de gens, c'est une projection, l'autoroute du succès.
Exact.
Si t'es à la télé, c'est donc que t'es riche.
C'est clair.
Alors qu'en fait, vraiment, il manque quelques étapes. Personne n'est payé pour apparaître dans c'est une clair. Émission.
Et ça, les gens, ils le savent
ça
pas.
Ça marche pas, quoi.
Ça, les gens, ils le savent pas.
On va revenir sur ton parcours.
Ah.
Parmi les questions que t'as choisies, alors... D'abord, il y a une question que je voulais insérer qui était, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle? Tu sais, la première fois que tu te dis ou que tu te dis à quelqu'un, quand je serai grande, je serai, c'était quoi et t'avais quel âge?
J'avais 16 ans et je crois que, ouais, je pense que c'était là où en fait je tenais tête à mes parents, surtout à mon père, et que je lui avais vraiment dit que concrètement, j'en avais strictement. Rien à faire de son avis et que concrètement j'allais faire ce que je voulais faire en fait, c'est-à-dire la musique, et que je vais réellement le faire et que en plus je vais le faire, mais en plus je vais essayer d'être quelqu'un dans ce truc-là parce que je vais me donner les moyens d'exceller dans ce truc-là et qu'il y a que dans ce truc-là que entre guillemets j'excelle, tu vois, et pas à l'école en fait. À l'école je suis nul, je suis naze, tu vois ce que je veux dire, genre j'ai pas envie. Et en fait, du coup, scolairement, j'ai eu mon bac, après j'ai fait mon BTS, etc. Mais j'étais toujours dans la moyenne, tu vois. J'étais jamais en dessous, j'étais jamais au-dessus. Mais je faisais strict minimum, un peu pour... pas pour foutre le seum à ma famille, mais genre pour leur dire, enfin, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et c'est seulement à mon BTS que j'ai commencé à sécher les cours. Genre moi, les gens que je côtoyais, genre ils séchaient les cours depuis le collège, même limite en primaire, tu sais, genre ils esquivaient, ils restaient dans leur lit. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Hein. Moi, c'est seulement en BTS, hein. Genre peut-être fin de BTS que vraiment je me disais, tu sais quoi, je me lève même pas. Je vais faire de la parce que je sais pourquoi je me lève pas. Je suis pas prêt d'aller en cours. C'est bon. Genre je vais faire de la musique. Je vais réellement faire de la musique. Mais c'était vraiment à l'âge de 16 ans où. Mes parents, je leur ai fait comprendre que je vais faire ça et rien d'autre. en fait.
Mais pour que tu puisses faire ça à 16 ans, pour que tu aies cette certitude de c'est ça que je veux faire et au point de je vais tenir tête à mes parents sur ce sujet, ça devait venir de quelque part. Est-ce que tu te souviens depuis combien de temps ou d'où ça t'est venu, cette certitude?
Je chantais avant, mais je chantonnais. C'est vraiment à 16 ans que genre j'étais choriste, genre je me faisais un peu de thune au black au départ, parce que du coup j'avais que 16 ans, donc voilà, j'avais pas encore 18 ans. Et de mes 16 jusqu'à mes 18 ans, du coup j'étais choriste comme ça, je faisais des cigales, des machins, des trucs et tout, en secrète, en cachette, genre pour pas le dire à mes darons. Et après c'est seulement vers mes 17-18 ans que du coup ils ont su que je faisais des scènes avec des artistes, des machins.
Mais comment tu les trouvais ces jobs? Tu faisais
sur internet.
Ah ouais.
Genre sur mes majeures compagnies, je checkais genre les petits artistes comme ça, genre en développement et tout, je les contactais en direct et tout comme ça. Tac 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 tac, ouais. Et après du coup ils me disaient ouais mais t'as que 16 ans, mais bon du coup on peut quand même te le donner genre de main à main et tout, tu sais, genre bah d'argent de poche, moi j'étais contente.
Ok, donc dès le moment où tu t'es dit c'est ça que j'ai envie de faire, tout de suite, tu l'as fait, en fait.
Ouais.
T'as pris les choses en main, contacté des artistes et faire des scènes.
Ouais. J'ai rendu ouf mes parents. Je les ai rendus ouf. Parce que vraiment, c'était compliqué. Oh là là. C'était compliqué. Hein.
Alors, raconte-moi l'histoire de l'audition pour La Nouvelle Star, du coup.
Oh.
Donc, moi, j'ai lu sur Wikipédia que t'as séché les cours pour aller à l'audition.
Ouais. Franchement, c'était... Oh là là. Vraiment, genre la veille... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, genre en mode meuf, est-ce que tu... bon, sécher les cours, tu vois, c'est un peu un acte d'affront. Je sais pas si c'est direct ou indirect à tes parents, tu vois, mais c'est genre un peu genre en mode c'est pas un fuck. Tu vois, c'est pas un fuck, c'est plus genre
c'est
en mode
défier l'autorité. T'es censé être là, on te demande d'être là.
Ouais. Mais c'est pas t'es chez toi. T'es pas quelque part, dans un café ou dans un casting, tu vois.
Ah, et c'est ça qui était différent pour toi, c'est pas le fait de sécher en sens chez toi, c'est
bah ouais, genre je sais pas, quand tu sèches, tu vois, genre tu restes dans ton lit, tu fermes la porte de ta chambre, tu vois.
Le principe, ok.
Non mais tu sais, tu fermes la porte de ta chambre et tu pray the God. Tu pray the God, genre en mode, I hope que mon père n'ouvre pas la porte et rentre, tu sais, genre en mode et tout. Et là, genre, c'était plutôt genre en mode, bon, le plan pour demain matin, putain, le casting, il est peut-être à 7h, 8h du matin. Donc, c'est-à-dire que le temps que mon daron, il se lève et tout, etc., tu sais, dans ma tête, je commençais à faire des plans et tout, machin et tout. Le lendemain, je me réveille à 6h30 et tout. Là, je commence à mettre, tu sais, quand tu mets la clé dans la serrure comme ça, pour éviter de faire du bruit le matin. Là, j'essaie de tourner la clé comme ça. Je ferme la porte comme ça. Au calme. Je referme la clé. Tout. Je monte dans l'ascenseur. Et quand les portes, elles se ferment, c'est genre... Je me relâche comme ça, je dis putain, je suis dans la merde, mais comment je vais kiffer, je me donnais à fond, c'est ma... Tu sais, genre j'étais là, genre en mode c'est ma chance ou rien, tu vois, c'était vraiment genre mon tremplin, genre vraiment, j'avais que ça, tu vois. J'arrive là-bas et tout, il y a une masse de monde de ouf et tout, je me dis putain, c'est mort et tout, c'est la merde, j'arriverai jamais et tout. Et là, c'est mon tour, j'arrive et tout, je commence à faire les trucs, vous appelez comment? Je m'appelle Isult. Ah ok, et tout. Vous avez chanté quoi? Je crois que j'avais chanté Foster the People. Enfin, je sais plus, je crois que c'est ça, le groupe Foster the People, un truc comme ça, un titre de leur groupe. J'arrive et tout, on est un de quelqu'un. Les gens ils kiffent, mais genre pas trop, tu vois. Je lui dis, putain, les gars, s'il vous plaît, juste kiffez plus, parce que j'ai pas aidé leur cours et tout. Pas besoin de rendre des comptes à mon père et tout. Saoulé. Et là, ils me font, ouais, bon, bah, on vous donne vos tickets pour aller devant le jury et tout, machin et tout. Le lendemain, j'arrive, ou peut-être deux jours après, je sais plus. Et Crary, genre, là, je vois les Sinclair, les machins et tout. J'avais la pression, je me rappelle, j'avais énormément d'acné. Oh là là, là, je connaissais pas encore le fond de teint, je connaissais pas encore les trucs, j'avais mes petites tresses et tout. Oh là là. Et j'avais surtout peut-être 45 kilos, moi. Et j'arrive devant eux, je chante la chanson et tout, tout le monde est émerveillé et tout, bam, je gagne mon ticket, je fais le théâtre et tout, ta 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 ta. Et là, je me dis, j'arrive au théâtre, je pense qu'il est peut-être temps d'en parler à mes parents, tu vois, parce que là, c'est un peu compliqué et tout, tu vois, genre, ils vont voir à la télé, c'est la merde et tout.
Parce qu'ils étaient pas au courant à ce moment-là.
C'est pas encore au courant, tu vois. Donc là, je me dis, bon, ok, ouais, bref, j'arrive au théâtre et là, du coup, j'appelle ma mère et mon père et je leur dis, tu vois. Bon, mon père, ouais. Il a boudé sur l'instant, tu vois. Ma daronne, elle était contente. Mais elle appréhendait, je pense, un peu, tu vois, le, à mon avis, l'après, tout ça. Si ça se casse la gueule, ce qui est normal parce que c'est ma mère. Et du coup, je fais le théâtre et tout, je passe les paliers et tout, trop bien, trop bien, trop bien. Et puis après, finale, et voilà. Perdu en finale, et après, signature, et après, album, et après.
Donc, c'était pas l'accès à la réussite financière, on va dire, tout de suite. Non. Mais ça t'a donné confiance pour la suite, j'imagine.
Ça m'a donné confiance pour la suite. Parce que je me souviens, je travaillais à Monoprix en parallèle de mon BTS. Et je crois que mes parents n'étaient pas au courant de ça. Donc, à mon avis, s'ils écoutent la podcast, ils vont se dire OK. Mais je travaillais en parallèle à Monoprix. Et en fait, je me disais que signer un contrat, c'était cool parce que du coup, financièrement, sachant que j'étais toujours encore chez mes parents, du coup, genre, c'était quand même pas mal, tu vois, même si c'était une avance, mais je comprenais pas encore ce système d'avance, je savais pas exactement ce que c'était, et moi, je pensais que c'était de l'argent comme ça, alors qu'en fait, c'était seulement un an plus tard que j'ai compris qu'il fallait que je recoupe, et quand je regardais mes feuilles et tout de SACEM, je me suis dit, bah attends, mais je comprends pas, et tout, non. Mais du coup, j'ai tout grillé dans la bouffe. Je sais pas comment j'ai fait, mais ne me demande pas comment j'ai fait pour dépenser tout ça dans la bouffe. Mais ouais, ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de me dire que, ah bah en fait, j'ai du talent. J'avoue qu'avant, j'étais plutôt dans une position genre en mode, eh bah tu vois papa, je peux faire ça. Tu sais, genre en mode, il fallait que je prouve à mon père que... Tu sais, bon, après, j'étais une ado bizarre et tout. Mais et après, c'est seulement cette année que je me suis apaisée, que j'ai pris du recul et que je me suis dit, mais en fait, si t'as fait ça et si tu fais tout ça à la base, c'est pour toi first, en fait. C'est pas pour faire plaisir à papa, en fait. Et j'ai l'impression que les gens de ma génération, même en fait tout le monde, parfois on oublie de vivre pour nous-mêmes. Et pas forcément pour les parents, les amis, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Tu sais, il faut... Demain, si t'as un échec, demain, si t'échoues, demain, si t'as plus rien, demain... Souvent, tu peux... Moi, je pouvais pas réellement compter sur des gens. Parce que j'ai fait le choix, genre, malheureusement, de focus sur la musique et de ne pas forcément... comment dire, intégrer ma famille dans ce milieu-là. Et en fait, c'était vraiment mon jardin secret. En fait, c'était même si demain je mange des pâtes, c'est pas votre problème. En fait, c'est parce que c'est mon choix. Mais il y a des gens et ils vont se dire, vas-y, même si demain je mange des pâtes, bah, je peux compter sur mon père, ma mère, tu vois. Moi, c'est pas du tout de mon éducation. En fait, c'est t'as fait un choix, tu l'assumes et t'essaies d'être autonome par toi-même. En fait, tu vois. Donc même si j'ai eu des moments trop cool dans ma life et tout, etc., avec la musique et tout, c'était trop bien. Mais les années les plus longues, là, ça a été genre après la promo de mon premier album. Quand on a fini la promo de mon premier album, ça a été l'enfer. Et ce qui m'attriste de ouf aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a beaucoup d'artistes en développement qui ont été dans ma situation et qui sont dans ma situation aujourd'hui, en fait. Et ça me fait chier, en fait. Ça me saoule. De me dire que t'as des artistes de ouf qui ont mon âge ou qui ont moins que moi. On leur fait signer des contrats, on leur donne des avances et ils sont pas assez informés sur le fait que c'est une avance sur ce qu'on va générer. C'est pas vos thunes, les gars, en fait. Et on les laisse dans des placards, genre en attendant que, genre, entre guillemets, ils mûrissent. Tu sais, genre en mode, en gros, qu'ils se développent tout seuls, qu'ils pètent tout seuls, qu'ils fassent leur buzz tout seuls. Et qu'après, genre, les majors et les labels, ils viennent derrière eux pour leur donner un petit coup de boost, tu sais. Ça me tue. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant 3 ans et demi.
Est-ce que c'est pas un peu lié au fait que...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, je suis un peu plus âgée que toi. Mm-hmm. Et j'ai connu la transition très douloureuse mm-hmm. entre le moment où la production artistique avait un modèle économique mm-hmm. qui était, on achetait des cassettes audio qu'on écoutait dans des Walkman. J'ai vraiment l'impression d'être extrêmement vieille. Mais moi, j'avais un lecteur, j'avais un baladeur CD, mon ami, bien sûr.
Tu sais que ça va revenir. Hein. Moi, je compte, franchement, si demain, genre, j'ai genre, du budget pour faire mon merchandising et tout, j'aimerais trop genre, vendre des lecteurs CD ou cassettes et genre, les gens, genre... génération, c'est genre mode.
Alors le baladeur CD, ouais. C'était une belle idée, mais en vrai, quand tu bougeais, quand tu marchais avec, j'en avais un qui n'était pas d'excellente qualité, on va dire. Donc ça, le CD bougeait, du coup ça faisait bouger. Bref,
c'était trop marrant. Et c'est trop fort.
Et en fait, j'ai connu l'époque où le téléchargement illégal est arrivé en premier.
Ouais.
Et il y a eu une période très très longue mm-hmm. parce que l'industrie de la musique a mis un temps vraiment ouais. long ouais. à retrouver son modèle économique mm-hmm. au moment où quand t'étais quelqu'un qui aimait découvrir des artistes, écouter, etc., mmh. c'était vraiment difficile de te priver de... En fait, voici une manne... Alors, certes illégale, mais en fait, c'est là qu'est le frais, mmh. c'est là qu'est le neuf, c'est là qu'est tout ce qui se passe. Effectivement, dès qu'il y a eu de l'offre légale, de streaming légal, direct, je surpassais à ça. Mmh. Mais je sais aussi que mon abonnement Deezer mm-hmm. il rémunère jamais les artistes mm-hmm. Et du coup par exemple je vais à des concerts, je mets un point d'honneur à aller voir en concert les artistes que j'aime et que je soutiens, voire parfois j'achète leur merchandising parce que mm-hmm. je sais que là-dessus c'est de la grosse marge. Alors moi c'est des bandes de, j'allais dire c'est des garage bands,
ouais,
donc
ouais.
Ils passent pas par 4 labels et 12 okay. intermédiaires, donc voilà, je sais que vraiment que je leur fais des dons, mais surtout ce que je préfère c'est limite les crowdfunding mm-hmm. Je contribue assez facilement à du crowdfunding d'artistes, juste pour c'est du mécénat moderne en mm-hmm. fait, c'est dire alors je suis pas riche et j'en ai pas
ouf.
Des mille et des cents, mais en vrai je préfère vraiment lâcher 5 euros en direct mm-hmm. à un artiste que de payer des abonnements à 3 plateformes différentes. Et c'était Amanda Palmer
okay.
qui s'était fait crowdfunder entièrement son album, et c'était mm-hmm. la première je crois à avoir fait ça parce que justement elle était totalement insatisfaite de la façon dont ça se passait avec son label mmh. et du coup elle a fait un appel, elle a demandé je crois qu'elle a demandé 2 millions d'euros, non elle a demandé 200 000 euros pour produire son album et elle a eu 2 millions d'euros.
Arrête.
Du coup elle a fait tournée mondiale les gars.
Arrête.
Merci. Rendez-vous sur Mademoiselle, du coup je mettrai les liens sur l'histoire
chaud,
de Amanda Palmer, et elle a fait tout un TED Talk sur l'art de demander. Et qui est, parce qu'elle a été notamment mime de rue.
Okay.
Tu sais, les gens qui sont déguisés, maquillés dans la rue, là, qui font les statues,
ouais.
en disant, une partie de sa vie, effectivement, elle était complètement à sec. Et parce qu'elle voulait faire de la musique, vivre la musique, vivre de son art, etc., elle mendiait. Mais elle avait toute sa philosophie de c'est ok de demander de l'aide. Moi, j'offre quelque chose à la société, j'ai une contribution qui est artistique.
Ouais,
alors,
ouais.
ok, elle est immatérielle, elle est inutile mm-hmm. si on se base sur une certaine définition d'utilité. Mm-hmm. En vrai, moi, je considère qu'elle est essentielle. Mm-hmm. Et je vous propose de me rémunérer à hauteur de ce que vous voulez pour cette contribution. Et c'est tout son discours autour de ça.
Et
c'est peut-être ça, je pense, un vrai avenir de la création artistique. C'est que moi, je trouve que les artistes contribuent à la société tout entière à hauteur inestimable. Quoi.
Non, mais t'imagines tous les magasins. Non, mais sincèrement, t'imagines tous les magasins du monde sans musique, les restos du monde entier sans musique. Sans musique. C'est-à-dire que tu regardes une pub, il y a juste la voix d'un homme ou d'une femme en permanence. Tu sais, c'est ouf. Franchement, tu t'enlèves notre art dans ce monde-là. Je dis pas que ça va faire genre...
C'est l'apocalypse.
Ouais, que c'est l'apocalypse, tu vois. C'est pas comme si... non. Mais en soi, je sais pas, genre un monde silencieux... C'est-à-dire quoi?
Mais je mets au défi celles et ceux qui nous écoutent de passer 24 heures dans le silence.
C'est impossible.
24 heures pendant lesquelles tu parles à personne, tu n'écoutes pas de musique, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas de film. Je l'ai fait. Et c'est vraiment très très dur. J'ai fait un stage de méditation pendant lesquels un des exercices c'était ça, c'était 24 heures de silence. Et donc tu ne regardes pas les autres, tu ne leur parles pas, tu n'écoutes rien, pas de son, pas de musique, pas de... sors pas Netflix quoi. Et tu n'écris pas non plus, parce qu'en fait écrire c'est extérioriser, même si c'est pour toi-même en fait, tu utilises un écran externe quelque part pour projeter tes pensées. Et essaye de rester face à toi-même pendant 24 heures.
C'est chaud. C'est chaud. Ouais, Putain, mais tu sais que tout le monde devrait faire ce que tu fais. Non mais c'est sincère. Hein. Tu sais, ça doit faire du bien. Genre, tu sais, c'est comme quand tu quittes Paris et que tu reviens à Paris, genre à Gare du Nord, tu sais, genre.
Ah, le choc est rude quand tu reviens à Paris, c'est sûr.
Tu sais, genre tu vas, à la gare de. Je sais pas, au fin fond d'une campagne, tu reviens à Paris, là, tu sais, genre...
Tu vas à Gare du Nord le dimanche et tu montes dans un train de banlieue et à une gare où il y a du vert et il y a du... Enfin, Gare du Nord ou n'importe laquelle, en fait, mais...
Contraste.
Et tout d'un coup, c'est la campagne. Et tout d'un coup, plus le bruit, plus la foule.
Tu sais, mais même la foule, tu sais, même rien que ça, c'est oppressant, genre. C'est... Tu sais, tu dis... Ah. Genre, tu rentres chez toi aussi, limite, t'es chez toi le matin, t'es toute tendue, tu vois. T'es pas au calme, mais je pense que ce que t'as fait, là, tout le monde devrait le faire.
Tu vois, je trouve que la musique, ça aide à créer cet espace. Mm-hmm. Que le silence, oui, ça marche, hein, mais c'est chaud.
Et bien sûr.
Et qu'en fait, je trouve que la musique, elle a ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que je parle d'une contribution inestimable à la société. C'est que tu disais tout à l'heure, ta nièce qui te dit, ou des gens qui te disent, c'est facile. Alors, moi, vraiment, je n'ai pas ce super pouvoir. C'est-à-dire que j'ai pas l'oreille musicale, je ne sais pas chanter, vraiment, impossible. Si ma vie en dépendait, eh bien, adieu.
Ah ouais, c'est chaud.
Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce pouvoir magique. On a extrêmement digressé.
Putain, mais c'est ouf.
Mais du coup, alors il y a pas mal de questions que tu m'as isolées et à laquelle auxquelles je pense tu as déjà répondu quand tu parles de est-ce que tu as déjà voulu tout abandonner? Ben, j'imagine que quand tu me parlais tout à l'heure de tes difficultés à réussir à vivre de ton métier, ça rejoint ça. La première fois que tu as défendu une idée, un projet avec tes tripes envers et contre tout le monde.
C'était il y a peut-être 2 semaines où en fait j'ai pris la décision de quitter. J'ai pris la décision et j'ai aussi fait les démarches genre pour quitter mon ancien label et mon ancienne boîte, mon ancienne maison d'édition pour aller ailleurs. Et pour être indépendante. Et je regrette pas mon choix, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis entourée de gens. Quand j'ai fait La Nouvelle Star, en fait, j'ai signé dans une maison et dans une major qui ne m'a pas choisie et que je n'ai pas choisie. Et mes contrats, ils arrivaient à terme, en fait, en octobre dernier. Et il y a à peine 2 semaines, j'ai dû faire un choix, mais... entre rester avec des gens qui ne m'ont pas choisi, que je n'ai pas choisi, ou aller dans une équipe qui m'a choisi, qui est venue à moi, et que je peux choisir. Et je me suis dit, mais en fait, même si ça me fait mal de quitter les gens qui ne m'ont pas choisi, que je n'ai pas choisi, alors qu'on a bossé pendant plus de peut-être 5 ans, 4 ans, je pense qu'il est temps que je fasse mes choix et que j'aille bosser avec des gens qui... réellement croire en mon projet et qui ont choisi de bosser mon projet. Parce que c'est différent, hein, genre de demander à des labels de bosser sur des projets sur lesquels ils n'ont pas choisi avec une art. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand un label, une major, une maison d'édition vient vers toi et qui te dit « Putain, on a capté ta musique, on capte ta vision, genre vraiment, qui te sort des trucs cohérents par rapport à ton projet », tu te dis « Ok, bah en fait, ça moi la main, vient en bosse, tu vois. »
Alors pourquoi c'était un choix difficile?
C'était un choix difficile parce que même si j'ai pas choisi ces gens-là, j'ai quand même créé des liens avec ces gens. C'est compliqué de passer d'une major à une autre. Dans le sens où dans la musique, même si tu vas chez Universal pour aller, je sais pas quoi, chez Warner, et que chez Warner ça se passe pas bien et que tu vas chez Sony, etc., etc. En fait, c'est les mêmes gens, en fait. Parce que même eux, c'est genre le DA que t'as croisé chez Universal, il va certainement migrer l'année prochaine chez Warner. Et puis toi, si ça se trouve, l'année prochaine, tu vas aller chez Warner. Et puis après, dans je sais pas combien de temps, tu vas certainement aller chez, je sais pas, enfin, Initial. Et après, bizarrement, bah, le chef de projet qui était chez Warner va aller chez... Enfin, en fait, c'est des gens qui...
C'est une grande famille où tout le monde se connaît.
Ouais, franchement, en fait, la musique, concrètement, c'est juste qu'en fait, on met des noms sur ces entreprises-là. Mais au final... Enfin, si c'est les mêmes personnes, en fait, tu vois. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que quand tu quittes une maison, comme Universal que j'ai quitté, tu vois, c'est Universal, tu vois, c'est pas genre un petit label indé que tu quittes comme ça, en dedans et tout. Ça m'a mis genre quand même 3 ans et demi, 2 ans et demi de... Tu vois, genre, c'est compliqué.
Alors, je suis peut-être naïve, mais j'ai pas la sensation que changer de label, c'est renier tout ce que ce label t'a apporté. Ou toute cette collaboration passée avec eux, en fait, c'est bah en passé fait, à autre chose.
Justement, c'est ce que pendant les réunions et tout, c'est ce que j'ai stipulé. J'ai dit que je suis très reconnaissante par rapport à ce qu'ils m'ont apporté, parce que je suis pas du tout la même personne, tu vois. Je suis très reconnaissante par rapport aux contacts qu'ils m'ont apporté, parce que j'ai pu là dernièrement, j'ai bossé, j'ai été auteur-compositeur pour le dernier album de Jennifer, par exemple. J'étais auteur-compositeur pour le dernier album d'Abel Bent. Genre, j'étais auteur-compositeur, genre j'ai bossé, enfin pour des gens comme Black Eyed Peas, etc., etc. Genre, c'est énorme. Franchement, tout ça, genre merci beaucoup. Mais j'avais une frustration en tant qu'Isult, moi mon projet, j'avais une frustration parce que on me faisait bosser beaucoup pour les autres. Mais je sentais que de plus en plus que je me mettais sur le côté, qu'on me mettait sur le côté, en fait, moi, mon projet. C'est-à-dire quoi? Donc, en fait, j'ai du talent et mon talent, faut qu'il soit tout le temps au service des autres. Non, je suis désolée, tu vois ce que je veux dire.
Alors, c'est pas forcément un mais dans ta phrase. C'est tu es reconnaissante de tout ce que t'as pu faire et contribuer, tout ce que cette collaboration t'a apporté. Et t'as besoin de plus de place pour toi et ton projet.
Grave.
Et donc, tu changes de label et tu avances dans ta carrière.
De ouf.
J'ai pas l'impression... Alors, je vais te dire un truc, je vais peut-être faire une généralité, je sais pas, on verra. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mecs qui se posent ce type de nœud de cerveau, tu vois. De se dire, est-ce que je suis en train... est-ce que... Suis-je légitime à revendiquer assez de place pour moi-même?
Mais c'est vrai, en plus. Non, mais vraiment, vraiment, genre... Non, t'as raison, non, mais ça, t'as raison. T'as raison, mais je te promets, faut aller au bout de ce que tu vas dire. Non, mais pas au bout, franchement, je suis avec toi, meuf. Je suis avec toi.
Ok, donc c'est.
Ah ouais.
T'as juste raison de vouloir. Ben, c'était sans doute une étape nécessaire. C'est-à-dire que si je t'écoute, mais comme tu démarres à 16 ans avec. Ok, maintenant je sais, c'est ça que je veux faire, donc je vais le faire. Si tu vas déjà hyper vite. Finalement, tu racontes une histoire qui est à la fois de galère et à la fois de réussite, mais j'ai envie de dire histoire de la vie, donc.
C'est clair.
C'est un peu le yin et yang, quoi. C'est tout n'est pas rose, tout marche pas du premier coup et tout.
Non.
Et t'es en train de me raconter une évolution de projet qui va dans le bon sens. Et trop cool, toutes les expériences que t'as pu avoir avec, avec Universal et toutes les collaborations que t'as pu faire avec des artistes qui sont déjà hyper bien installés, qui ont une grosse légitimité dans le milieu, ben, c'est autant de trucs qui viennent te fortifier, toi, en tant qu'artiste. Et ben, l'heure est simplement venue de t'accorder plus de temps et plus de place à toi, en tant qu'artiste.
Ah, je t'aime bien.
Je suis trop
la vérité. Oui, c'est vrai.
Parmi les questions que tu m'as sélectionnées, t'as mis le jour où je me suis surprise. À quoi tu pensais?
Bah justement, je pensais à ma nouvelle signature que j'ai fait genre lundi dernier. L'acte de signer ce genre de contrat avec une nouvelle équipe. Là, je me suis dit putain. En fait, d'un côté, je me suis dit putain, mais meuf, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que tu fais? T'es sûre de ce qui... Et d'un autre côté, je me disais, tu sais quoi? Chapeau, meuf. Franchement, t'as négocié ton contrat toute seule. Tu t'es sortie de ton contrat toute seule. Et genre, tu t'entoures de gens, genre, trop chambés et tout. Genre, t'as un management de la mort. T'as une maison d'édition de la mort. T'as un contrat de ouf. Franchement, hein, à 24 piges, tu sais quoi? meuf, t'es trop chaude. Mais d'un autre côté, il y avait mon petit démon, genre, bud, mais tu te rends compte, et machin, et nan, nan. Et d'un autre côté, j'étais là, genre, meuf, vas-y, t'es un flic et tout, vas-y, fuck that et tout, genre, ouais, mais putain, voilà. Mais par contre, je me félicitais, j'étais tellement fière, genre, tellement fière. Je me suis dit, putain, genre, tu vois, c'est seulement cette semaine que vraiment j'arrive à respirer. Bah, là, je suis trop contente. Genre,
je vais requalifier cette question en la dernière fois que j'étais fière de moi. Je pense que c'était, ouais, ça correspond mieux.
C'est ça, c'est exactement ça. Franchement, j'étais fière de moi. Hier, je me suis posée et je me suis dit, là, les petits jobs, vraiment concrètement, là, c'est bon. C'est loin derrière. Genre, là, ça va te permettre de... Tu vois ce que je veux dire?
Une étape est franchie.
Ah ouais, putain, un palier est franchi. Ça fait du bien, en fait.
Et alors, le jour où j'ai pris conscience de ma voix, de mon pouvoir, de mon impact?
16 ans. Pas avant. Je savais que vraiment, genre, c'était ça. Et que vraiment, je pouvais toucher les gens. Que j'avais certainement une sorte de mini-capacité à pouvoir donner de l'émotion aux gens, genre à extérioriser ce que j'avais en moi pour le partager aux autres, tu vois. Genre, c'est vraiment à l'âge de 16 ans où j'avais mon phrasé, où j'avais mon... Tout mon truc, tout mon délire, genre, tu vois.
C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie?
D'écouter les autres. Et là, les gens vont se dire, mais c'est quoi cette putain de meuf, elle me sauve. Mais non, je vous jure, je ne suis pas sauve, je suis que joie et paix et amour. Mais vraiment, le... Ah. Oh.
Mais c'est paradoxal que tu me dises que c'est le pire conseil qu'on t'ait donné et ton premier réflexe, c'est de te préoccuper d'autres qui vont nous écouter dans le futur et qui sont
mais
même pas dans cette pièce.
Justement, je sais, mais c'est, je sais pas, genre, c'est d'écouter les autres, tu sais.
Qui t'a dit ça comme conseil?
Mais tout le monde me dit ça. Tu sais, même dans tout le monde, j'ai l'impression d'être énervée. Tu sais, ça me saoule. Je déteste. Bon, après, je suis Lyon, encore une fois, again. Mais, tu sais, il y a ce truc de... si tu n'écoutes pas les gens, ça veut dire que t'es prétentieuse et imbue de ta personne ou égoïste. Ou tu vois ce que je veux dire? Mais non. Là, pour l'instant, moi, dans mon mini chemin de vie, quand je vois mes échecs, ils ont été faits par les gens. Tu sais, c'est... Ouais, par des gens, en fait. J'ai pas échoué par mes choix. Et ça, c'est pire. J'ai une grosse dépression de ouf. Parce que, en fait, je n'ai pas échoué avec mes choix. J'ai échoué avec les choix des gens.
Ça, c'est dur. C'est putain, vraiment dur de savoir. Enfin, c'est pas c'est ça que tu voulais faire.
C'est horrible.
Okay.
Tu sais, c'est vraiment genre, franchement, il m'a fallu 3 ans et demi. Pour me relever de ça, hein. 3 ans et demi, genre du lundi au dimanche, CDI de dépression, sans blague, vraiment, sincèrement. Et le pire du pire, c'est que j'ai fait ma dépression tout en vivant chez mes parents. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu restes dans ta chambre, tu fais juste des allers-retours pour aller prendre ta bouteille d'eau et ainsi de suite. Tu sais, pendant 3 ans et demi non-stop. Parce que je marronnais dans ma tête en me disant, putain, j'ai eu 3 ans et demi d'échecs. Mais l'échec, c'est pas moi. On m'a demandé de chanter, on m'a demandé de faire mon taf, j'ai fait mon taf. Mais c'est pas moi qui avait l'échec. Enfin, la carte de crédit. C'est pas moi qui avait les clés de tous ces trucs-là, tu vois. Et aujourd'hui, c'est différent. Parce que là, je suis en train de créer mon label, créer ma structure. Genre de produire moi-même mes clips, de produire moi-même mes mix, mes masters, mes trucs. Là, je pars dans des délires de réalisation, de machin, de trucs. Là, j'ai les mains sur tout. Donc concrètement, là, mon projet, s'il sort et que ça échoue, c'est moi, c'est mon échec, c'est mon choix. J'ai décidé de faire ce clip, j'ai décidé d'écrire ce texte, j'ai décidé de me saper comme ça, j'ai décidé de faire cette interview et de dire merde, et de dire je, et de dire je sais pas quoi, parce que j'ai choisi. Je veux plus écouter les gens. Je ne veux plus ça. Attention. Par contre, ça ne veut pas dire que je suis hermétique aux avis des gens. J'écoute les avis des gens. Je l'écoute. Je ne fais pas semblant. Genre, ça reste dans ma tête. Mais ce n'est pas ce que je vais faire.
Tu les prends en compte.
Je les prends en compte.
Pas parole d'évangile, quoi.
Voilà. Je les prends juste en compte. Je me dis, on m'a dit, zut, là-bas, c'est pas bien. Moi, je vais me dire, ouais, ok, là-bas, c'est pas bien, mais je sais pas. Moi, j'en ai là-bas. J'ai besoin d'échouer et d'avancer avec mes choix et de voir avec mes yeux et par moi-même et avec mes propres moyens, tu vois. Et je sais que si j'échoue, ce que je ne me souhaite pas sur le prochain projet que je sortirai, vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, franchement, je suis tellement contente de tout ce qui m'arrive, des gens qui m'entourent aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas possible d'être entourée avec des gens aussi merveilleux qu'aujourd'hui. Mais je sais que je leur mettrai pas de pression parce que c'est moi qui finance, c'est moi qui sors de ma poche pour financer mes trucs et que je sais très bien que si ça foire, c'est moi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à avaler le premier échec parce que c'est compliqué.
C'est pas ça le meilleur conseil à donner aux gens ? Échouer par vous-même ?
Échouer par soi-même, ouais. Sincèrement, c'est... Après, j'incite pas les gens d'échouer, tu vois. Faut level up un peu, tu vois. Mais je pense que... Il y en a marre. Moi, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de vivre dans une société où faut se marier à tel âge, faut sortir avec un homme, faut faire ça. Mais attendez, les gars, mais genre, juste qui a... Dites-moi qui a écrit. Mais où est-ce que... Juste qu'on me dise où est-ce que c'est écrit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que c'est écrit? Tout ça, je comprends pas. Je comprends pas, moi, je...
Qui fixe les règles du jeu?
Mais qui a fait ça?
Qui a le pouvoir de siffler?
Je sais pas, tu nais, tu sors de la ville de ta maman, tu sais, genre, il y a une bible de ce qu'il faut faire dans la vie, genre en mode, faut écouter ton voisin d'à côté, là. Mais gros, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le voisin, il va me dire, je pense qu'il est préférable que tu sautes d'un pont, je pense que c'est vraiment pas mal pour toi, tu sais, moi j'ai essayé de le faire, je suis juste amoché, c'est... Non, bah non, franchement, si demain je dois échouer, je préfère échouer tout en étant têtu. Après, j'avoue que c'est une qualité comme un défaut. Mais là, cette année, avec mon nouveau projet, j'ai envie d'être têtue. Pas forcément d'en faire qu'à ma tête, de prendre les avis des gens, mais d'être têtue.
Alors, où est-ce qu'on peut te suivre cette année à venir pour suivre ton projet, justement, et tout ce qui va se passer?
ASMR. Alors, du coup... Alors, du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est ouf, hein. Moi j'aime trop les ASMR. En plus j'ai fait une session et tout pour vous, genre j'ai fait un truc des ASMR et tout. Non, genre plus sérieusement, vous pouvez me suivre genre sur Instagram, genre j'y suis H24, je réponds à tous les DM, tous, je réponds à toutes les stories, toutes, je réponds à tous les commentaires sur en dessous de toutes mes photos, vous pouvez checker, je réponds à tout le monde. Sur Twitter aussi. J'aime bien mettre des likes et pas forcément répondre à tous parce qu'après ça fait plein de trucs. Et sur Facebook. Et le 12 février à la Boule Noire.
Tu seras en concert?
Bien sûr. Et vous allez venir?
Oui, avec plaisir.
Franchement, grave. Trop bien. Et 12 février. Et là, du coup, j'ai fini d'enregistrer mon premier single hier. Trop contente. Et du coup, voilà. Ouais. Tout ça. Hein.
Trop bien. On arrive à la fin de ce podcast.
Oh my god!
Merci beaucoup. Est-ce que tu avais un truc que tu voulais partager? Il y avait deux autres questions auxquelles tu avais répondu, du coup, je les propose. Le meilleur conseil que tu as donné ou que tu donnerais?
D'écouter son instinct, d'écouter. De s'écouter, en fait. Je trouve qu'on est dans une époque où on s'écoute pas assez. On se préoccupe de ce que les gens vont penser. C'est triste, hein. En fait, je suis tellement quelqu'un d'hyper ultra sensible, vraiment, hein, que j'ai l'impression que là, notre époque et tout, je sais pas. Je comprends pas tout ça. Il y a un truc qui me dépasse. Et je pense qu'on devrait s'écouter et avancer ainsi, en fait. Avancer ainsi. Vraiment, faut faire un travail de fond, là, tous, pour accepter que, tu vois, genre, certes, on prend en considération les avis des uns des autres, mais créons-nous notre propre personnalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Complètement. Et... ton espoir le plus fort?
Sincèrement, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir vivre de ma musique et de perdurer.
Eh bien, c'est ce que je te souhaite aussi.
Merci.
Merci beaucoup. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi. J'ai bon espoir qu'on se quitte en musique, mais je laisse Louise qui va monter ce podcast en décider.
Bon courage Louise.
Je ride dans la ville, and bah ouais, ah ouais. Je ride dans la ville, je ride dans la ville, and bah ouais. Je ride dans la ville, tout est sombre autour de moi. Seul dans la ville, version obscure de ma personne. Pensées brossant dans la tête, je danse pour éponger ma peine. Hey, tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états. La 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 la. Hey, tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états. La 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 la. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. And bah ouais, ah ouais. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. And bah ouais, 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 ouais. Je ride dans la ville. J'ai perdu mon point de repère. Je ride dans la ville. Mon écho me parle dans le rétro, perturbé depuis le berceau. Je tourne en rond dans le bendo. Hey, tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états. La 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 la. Hey, yeah. Tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états. La 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 la. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. And bah ouais, ah ouais. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. Je ride dans la ville. And bah ouais, ouais, ouais. La 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 la. Hey, yeah. Tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états. La 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 la. Hey, tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états. La 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 la.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.